L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'économie autrement. Nous sommes le mardi 23 avril 2024, au micro Guillaume Le Panerer. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'édition d'aujourd'hui est consacrée justement à l'économie sociale et solidaire à l'occasion des 10 années de la loi du 31 juillet 2014. En définissant le périmètre de l'économie sociale et solidaire, cette loi a marqué une avancée considérable pour la reconnaissance et la promotion de ce secteur. Elle en a défini les grands principes suivants. Poursuivre un but social autre que le seul partage des bénéfices. Une lucrativité encadrée et une gouvernance démocratique et participative. L'économie sociale et solidaire est aujourd'hui omniprésente dans notre quotidien. Elle représente plus de 10% du poids économique national, plus de 14% des emplois privés, soit environ 2,4 millions de salariés dans plus de 200 000 entreprises de toute taille. Car l'ESS, ce sont évidemment les associations, les sociétés coopératives, mais ce sont aussi les fondations, les mutuelles, notamment dans la santé et les assurances, ou encore les entreprises commerciales d'utilité sociale, c'est-à-dire dont la finalité sociale est prioritaire par rapport à leurs objectifs économiques. L'économie sociale et solidaire, c'est surtout un secteur qui se réinvente en permanence, dans sa gouvernance, dans son organisation, dans sa relation avec les tiers ou encore dans ses formes juridiques. Les 10 ans de la loi E2S sont donc une formidable opportunité pour faire un point d'étape de ce secteur d'importance. Afin de développer ce thème, nous avons préparé l'émission suivante. Tout d'abord, nous écouterons l'édito de Bernard Bazillon, associé KPMG, responsable de l'économie sociale et solidaire, qui reviendra sur les origines de la loi 2014. Ensuite, dans le grand angle, j'aurai le plaisir d'échanger avec Maxime Baduel, délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire, afin d'aborder avec lui l'avenir de ce secteur. Finalement, le Zoom sera l'occasion de mettre en lumière la merveilleuse initiative « Chaque histoire compte vraiment » portée par Anne-Dauphine Julien, présidente de l'association « Ce qui compte vraiment ». Commençons donc cette émission avec l'édito de Bernard Bazillon.
L'édito.
Que de chemin parcouru depuis les travaux de recherche menés au Collège des Bernardins sur les formes de la propriété et les responsabilités sociales des entreprises, dont la synthèse fut débattue lors d'un colloque en 2011, 13 ans déjà. En partant de cette question faussement simple, qui est propriétaire de l'entreprise ? Les travaux avaient résolument choisi d'inverser le raisonnement en partant des quatre domaines de responsabilité qui coïncident avec les fonctions majeures de l'entreprise. L'accomplissement des personnes, la valorisation du travail, des biens et des produits financiers, la mise en œuvre de processus de création collective et enfin l'inscription de leur activité dans l'espace international. Le colloque des Bernardins formula à l'époque cinq recommandations à cet égard. Clarifier la mission, restaurer l'autorité des dirigeants, renforcer les formes de démocratie dans l'entreprise, reconstruire les droits et devoirs des actionnaires durables, instituer un contrat d'entreprise et enfin constitutionnaliser l'entreprise mondialisée. Qu'en est-il aujourd'hui ? La petite phrase lancée en 1970 par le prix Nobel d'économie Milton Friedman, « La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est d'augmenter ses profits », est le point de départ d'une doctrine qui allait marquer la fin du millénaire. « Seuls les individus peuvent avoir des responsabilités », ajoutait le célèbre économiste. Un demi-siècle plus tard, ces propos ne sont plus du tout d'actualité. L'entreprise a besoin d'exister quelque part. Et cet ancrage lui confère une responsabilité particulière en matière d'emploi, de cohésion sociale, d'attractivité, de santé et d'impact environnemental sur son territoire. Dit autrement, l'entreprise n'est pas soustraite à toute forme de matérialité, soumise aux seules forces d'une mondialisation éthérée, d'une digitalisation désincarnée, ainsi que d'une financiarisation inévitable. Mais quelle direction prendre ? Faisons un petit détour par la littérature, Lewis Carroll précisément, avec la réponse du chat à Alice quand elle demande son chemin. Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller. L'Impact Tank, dans l'édition 2023 de son rapport « Mesurer l'impact et l'engagement territorial des entreprises », le rappelle. L'ancrage territorial des entreprises peut valoriser les ressources non redéployables, attirant de nouvelles entreprises dans les territoires, freinant le départ des anciennes et contribuant à la création de nouvelles. Un ancrage, une proximité, qui sont aussi considérés comme un élément de performance globale des organisations. L'action de proximité apparaît d'ailleurs comme l'échelle la plus pertinente pour conduire une transformation systémique de nos économies. Pendant que les nations parlent, les villes agissent, rappelait à juste titre Michael Bloomberg, alors maire de New York. En effet, les interactions qu'engendre une entreprise avec les écosystèmes locaux en fait un acteur central pour mener une dynamique de transition juste. Or, l'économie sociale et solidaire fait partie de la solution. L'ESS, c'est entreprendre collectivement au service d'un intérêt général ou d'une utilité sociale. Une autre forme d'entrepreneuriat à impact. Par petites touches, émerge désormais la notion de territoire à mission, qui cherche à fédérer, au travers d'objectifs communs, les acteurs politiques, associatifs, économiques, ainsi que les citoyens d'un même territoire. Une façon d'afficher sa vision et sa volonté collective de changer les choses à l'échelle locale. Et une double vertu revendiquée, amorcer une démarche de responsabilité collective et attirer sur le territoire les entreprises les plus engagées dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. Reste à mesurer son impact pour changer le système, car la pertinence d'une action se démontre par son évaluation. Plus que jamais, entreprises et territoires se retrouvent liés par un destin commun.
Grand angle.
Poursuivons maintenant avec le grand angle. J'ai le plaisir de recevoir à notre micro aujourd'hui Maxime Maduel, délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire auprès d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonjour Maxime Maduel.
Bonjour Guillaume.
Alors vous êtes un jeune délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire puisque vous avez été nommé en novembre 2023 par décret du président de la République. Pour commencer, pouvez-vous présenter rapidement votre parcours et votre engagement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ?
Oui, bien sûr. Déjà, vous remercier pour votre invitation. Alors, rapidement, je suis ingénieur de formation, développement durable. J'étais aussi diplômé de l'ENA en affaires européennes. Je commençais ma carrière dans le dialogue social, la transformation des grandes entreprises avec plutôt un angle responsabilité sociale et environnementale, puis un passage au groupe Les Échos sur tout ce qui concerne la diversité, le handicap, la RSE, et plutôt côté gouvernement, donc ministère de l'écologie, Bercy, sur des sujets toujours d'ESS, financement de l'ESS, financement des associations. Et plus récemment, j'étais directeur général de Solidarité Nouvelle pour le Logement. Donc, c'est une association qui lutte contre la grande pauvreté par le logement d'insertion, forte d'à peu près 100 salariés et 1500 bénévoles.
L'économie sociale et solidaire est un secteur complexe, avec des acteurs de toute taille intervenant sur des activités très diverses. Comment définiriez-vous l'économie sociale et solidaire et quelle vision avez-vous de ce secteur ?
C'est une question intéressante parce que cette année, nous fêterons les 10 ans de la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Et on peut se faire le bilan des 10 ans, dire que si ça a permis un grand cap institutionnel, on est encore loin de l'identification du passage à l'échelle que l'on attendait. Donc, déjà dire que finalement, l'économie sociale et solidaire, elle est présente partout, parce qu'elle est dans tous les secteurs d'activité et elle est dans toutes les solutions du quotidien des citoyens par les citoyens, parce qu'elle répond aux grands enjeux de transition environnementale, sociale, démocratique, et elle réinvente aussi l'économie par ses modes d'entreprendre qui, rappelons-le, sont aussi bien les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives, les entreprises sociales. Et donc tout ça, c'est à la fois l'économie autrement et c'est aussi la main tendue, la solidarité, la cohésion sociale, ce que nous appelons régulièrement la République du lien.
Dans le cadre de votre mandat, quelle feuille de route, quel programme d'action souhaitez-vous mettre en œuvre ?
Rappelons que quand même, l'économie sociale et solidaire, c'est quasiment 10% du PIB, 14% de l'emploi privé. Donc, la feuille de route vise à lever tous les freins au développement de cette économie et accompagner notamment les plus petits acteurs à avoir toutes les capacités et les financements au service de cette économie de la transition. Alors, la feuille de route du gouvernement s'appuie sur trois pans, j'ai envie de dire, les territoires, les modes d'entreprendre, le financement. Sur les territoires, c'est bien sûr favoriser le développement d'activités résilientes, créatrice d'emplois et donc source de relocalisation au cœur des territoires. Ça passe par la coopération, ça passe par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, ça passe aussi par le renforcement des services déconcentrés de l'État. Sur les modes d'entreprendre, l'idée, c'est de pouvoir, si vous voulez, les mettre en avant comme des solutions des grandes transitions. On en parlait. Lorsqu'on va parler de partage de la valeur et de partage de la gouvernance, il y a des acteurs coopératifs, qui ont des solutions, qui se réinventent, qui créent aussi bien des solutions qui impliquent les citoyens, qui réforment la gouvernance des entreprises. Il faut les mettre en avant. Et j'ai envie de vous dire, il faut les mettre en avant, qui plus est, lorsqu'on va parler de reprise d'entreprise. Et ça, c'est un grand défi des prochaines années à venir. Ça veut dire aussi repenser les entreprises sociales, en tout cas l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qu'il soit bien lisible, cohérent, pour assurer un meilleur financement et soutien par des marchés publics, par des dispositifs publics. Et enfin, l'accès au financement, sans rentrer trop dans le détail, c'est aussi bien le financement européen, repenser le rôle des banques publiques, mais aussi les capitaux privés, et je pense en premier lieu à l'épargne, vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
En vous écoutant, Maxime Baduel, on comprend l'importance des territoires dans le développement de l'E2S. D'ailleurs, comme abordé dans l'édito de Bernard Bazillon. L'une des ambitions que vous portez est donc bien le développement du modèle de l'E2S. Pouvez-vous nous préciser ce point ?
Oui, comme on disait, l'ESS, elle est essentielle parce qu'elle est partout, dans tous les secteurs d'activité, mais pas assez vue. Donc, ce que l'on souhaite mettre en avant, c'est au travers d'une grande campagne de communication sur laquelle il faut que nous travaillions avec ESS France, donc la Chambre nationale de l'économie sociale et solidaire, pour montrer que finalement, l'ESS, elle est au cœur de notre République, au cœur de toutes les solutions que nous vivons dans notre quotidien. Ça passe de la crèche associative à la mutuelle de santé, par les banques coopératives. Montrer que finalement, l'ESS, elle répond à tous nos besoins en tant que citoyens et surtout par l'engagement des citoyens. Et ça, c'est réaffirmer l'ESS comme une économie des solutions, mais aussi, j'ai envie de vous dire, comme une économie politique et l'assumer pleinement. Et assumer pleinement, qui n'est pas une économie politique dans le sens de la polémique, de la politique parfois comme elle peut décevoir, mais de la politique comme elle peut encourager par l'apport de solutions et par, finalement, si vous voulez, son lien avec les citoyens et sa façon de reconnecter les solutions et les citoyens.
Justement, le 2S semble bénéficier aujourd'hui d'une reconnaissance importante auprès des institutions et une sorte de label de respectabilité auprès des citoyens. Comment mieux faire connaître ce secteur, pourtant omniprésent dans notre quotidien, vous l'avez dit, et permettre son développement ? Vous avez parlé d'une marque 2S.
Complètement. Mais c'est ce que je vous disais par rapport à la marque ESS. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on arrive à visualiser l'économie sociale et solidaire dans tous nos objets, dans tous nos enjeux de la vie quotidienne. Donc, ça veut dire montrer que lorsqu'on va souscrire un compte auprès d'une banque coopérative, eh ben, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose en termes de valeur, ça veut dire quelque chose en termes de partage de la gouvernance. Lorsqu'on va consommer des produits de coopérative agricole, d'ailleurs, soit dit en passant, rappelons que quand même la coopération agricole, c'est 40% de la production alimentaire en France. Donc, il y a un enjeu de souveraineté. Au-delà du fait que c'est des modèles économiques, et c'est de la démocratie économique, eh bien tout ça, il faut le montrer et il faut en faire, si vous voulez, un choix militant. C'est en ça que l'ESS est une économie politique, parce que c'est une économie des choix. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on s'engage dans l'ESS, on sait pourquoi on consomme l'économie sociale et solidaire. Ça, il faut mettre toute la lumière dessus et il faut mettre toute la lumière sur les acteurs qui font un travail exemplaire au quotidien, dans les territoires, pour ramener toujours plus des citoyens qui sont en rupture avec la société et leur apporter des solutions proportionnées à leurs besoins et à leurs capacités financières.
Nous sommes à quelques semaines des élections européennes, alors pour finir cette interview, pouvez-vous nous situer l'E2S et son modèle français dans cet environnement européen ?
L'ESS dans son environnement européen, j'ai envie de dire, hier on fêtait les 1 an de la résolution des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire. C'est un moment, si vous voulez, assez important du point de vue international parce que c'est l'aboutissement d'années et d'années de plaidoyer, de mise en avant de ce mode d'entreprendre comme une façon de répondre aux grands enjeux de transition du point de vue international. Du point de vue européen, nous avons voté il y a quelques mois sous la présidence espagnole d'une recommandation aux États membres sur l'économie sociale et solidaire, qui demande à 2 ans, c'est-à-dire d'ici novembre 2025, que chaque État membre publie des feuilles de route relatives à l'économie sociale et solidaire. Ça donne un énorme coup de projecteur sur ces acteurs, sur la façon de co-construire des politiques publiques avec les écosystèmes, et en plus, ça permet de définir à l'échelle européenne l'économie sociale et solidaire en se basant sur la loi de 2014, sur la définition française de l'ESS. Donc, j'ai envie de dire, c'est une énorme source de fierté pour la France, plus particulièrement une énorme source de fierté pour l'écosystème français de l'ESS. Et maintenant, il faut montrer toute sa puissance et avec ces élections européennes, avec une nouvelle Commission européenne, arriver à montrer, si vous voulez, le pouvoir transformatif de l'ESS dans le marché intérieur, dans la politique économique européenne, et montrer que c'est des acteurs porteurs de solutions et qui créent toujours plus de communs. Parce que s'il y a bien une fois où on parle de communs en 5 ans, c'est pendant les élections européennes.
Merci beaucoup Maxime Baduel pour cet échange très intéressant.
Merci à vous.
Le Zoom.
Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. J'ai le plaisir de recevoir Anne-Dauphine Julien, présidente de l'association Ceux qui comptent vraiment. Bonjour Anne-Dauphine Julien.
Bonjour.
Dans le cadre de ce Zoom, nous avons souhaité mettre en lumière l'initiative « Chaque histoire compte vraiment » portée par votre association et qui propose à des lycéens d'écrire le livre de vie d'une personne âgée. Pouvez-vous présenter plus précisément le projet « Chaque histoire compte vraiment » à notre auditoire ?
Alors c'est un projet qui est né pendant le confinement, comme quoi il sort parfois de bonnes choses de situations compliquées. J'ai entendu sur les réseaux sociaux une jeune fille, je pense de 15 ans, qui disait « mais c'est horrible ce qui nous arrive à l'échelle de sa vie, elle n'avait jamais connu pire évidemment ». Et en zappant, je suis tombée sur le récit d'une personne âgée qui racontait son enfance dans la guerre. La faim, le froid, puis aussi les belles choses qu'elle y avait connues, la générosité, la solidarité. Et je me suis dit qu'il fallait reconnecter ces générations parce qu'on n'est plus avec nos grands-parents le soir après la soupe au coin du feu pour qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu. Et donc j'ai eu cette envie de proposer à des lycéens d'aller à la rencontre d'une personne âgée qu'ils ne connaissent pas pour écrire son livre de vie. On a commencé il y a 3 ans avec 17 duos, 17 personnes âgées et 17 jeunes, un peu à titre expérimental, en se demandant si ce n'était pas trop audacieux, si ce n'était pas trop ambitieux pour les jeunes. Et ça a été extraordinaire. Extraordinaire, pas forcément l'extraordinaire de la vie racontée, parce que c'est des vies très ordinaires qui sont racontées, hein, mais c'est des vies entières quand même. Extraordinaire dans ce que le jeune en a tiré, et surtout dans la relation qui s'est tissée avec la personne âgée. Donc on a continué, et cette année pour la 3e édition, on a déjà plus de 250 récits, et l'année prochaine, je pense qu'on en aura 350.
Et comment est-ce que vous organisez l'écriture du livre et la mise en relation entre les personnes âgées et les lycéens ?
Alors nous, on est très pragmatique et on est très attachés au local, à ce qui se passe à côté de chez nous. Donc on est, en général, on va voir un lycée ou un EHPAD, et puis on voit quels lycéens ont envie de participer au projet. Ensuite, on va à l'EHPAD le plus proche, voir quelle personne âgée a envie de raconter sa vie. On organise un petit speed dating, un rendez-vous où chacun se présente en 5 minutes, et on crée les duos, soit en fonction d'affinité quand il y en a, ou non, par le plus simple des hasards, ou par notre intuition en tout cas. Ensuite, le jeune va toutes les semaines, ça c'est assez exigeant quand même, toutes les semaines, voir pendant 1 heure la personne âgée. Alors il a une petite trame de questions au cas où il ait besoin d'un petit guide. Et puis en amont, nous, au sein de l'association, on forme les lycéens à la rencontre avec la personne âgée, au fonctionnement de la mémoire. C'est une formation passionnante d'ailleurs. Et puis moi, je les forme à l'écriture. Moi, je suis autrice de métier, donc je les forme à l'écriture. Et ensuite, vraiment, la rencontre leur appartient. Ils ont cette trame dont ils peuvent se servir ou pas. Ils collectent les informations de tout ou partie de la vie de la personne âgée. Je me rappelle, il y a un monsieur âgé qui, lui, n'a raconté dans son livre que son élevage d'escargots. Voilà, c'était ce qu'il avait envie de laisser au monde. C'était la vie passionnante d'un élevage d'escargots. Et c'était un super bouquin, par ailleurs. Et nous, à partir du mois de... On s'inscrit sur une année scolaire. Et à partir du mois de décembre, on invite les jeunes à écrire. Donc là, c'est un peu plus... Il faut un peu plus les marquer à la culotte parce qu'il faut être bien avec eux pour les accompagner. Oh, on dira, à 17 ans, je vais écrire un livre. Ben oui, tu vas écrire un livre. Et on les accompagne bien. Et voilà, ils remettent les récits là. On est en plein dedans, au cours du mois d'avril. Des récits qui font en général à peu près 80 pages. Et ce qui est assez impressionnant, et ça, c'est une exigence qu'on a qui est très importante, c'est qu'ils écrivent à la première personne, comme s'ils étaient la personne âgée. Donc moi, Madame Michu, 97 ans, alors que c'est une jeune fille de 17 ans. Et on a voulu ça vraiment pour qu'ils se mettent dans la peau de la personne, sans créer la distance justement entre les générations. Et qui se retrouvent bien dans cette humanité qu'ils ont en commun.
Une fois le livre écrit et édité, est-ce que les relations entre les lycéens et les personnes âgées, elles perdurent ?
Ben oui, c'est ça qui est incroyable, parce que le livre n'est qu'un prétexte en réalité. Non, il est magnifique pour garder la mémoire, c'est vrai que... Et puis pour la transmettre aux proches de la personne âgée, ou parfois juste au personnel soignant quand la personne âgée n'a pas de proches. Mais ce qui est très impressionnant, c'est évidemment la relation qui s'établit entre le jeune et la personne âgée. Il y a un monsieur qui est au cours de la... cérémonie de remise de livres disait au jeune homme, j'ai gagné un petit-fils, et c'est vraiment de cette nature-là. Et quand ce n'est pas un lien de filiation, c'est encore plus beau parce que c'est une réelle amitié qui dépasse le gap générationnel. Vraiment, ils se sont retrouvés dans tout ce qu'ils partagent. Ils n'ont pas d'enfance en commun, il y a eu en effet la guerre pour certains et puis d'autres difficultés pour les plus jeunes. Mais en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont énormément en commun, ils ont toute leur humanité en commun.
Quels sont les besoins de votre association pour ce projet et comment pouvons-nous soutenir et accompagner cette initiative formidable ?
Alors, comme je vous le disais, on grandit vite. Il faut qu'on grandisse bien aussi. On était présent au début qu'en Île-de-France. Et puis maintenant, on essaie d'avoir une couverture nationale en allant de plus en plus dans les territoires. On est à Lyon, à Bordeaux, au Mans, à Lille. On sera l'année prochaine à Laval et à Rouen, dans d'autres villes certainement. Ce projet est entièrement gratuit pour les jeunes et les personnes âgées. Ça, c'est un fondamental de l'association. Mais évidemment, il a un coût. Donc, on recherche des fonds, des soutiens, des partenaires financiers, des mécènes, des gens qui s'engagent à nos côtés dans cet aspect-là. Et puis, on cherche aussi des bénévoles, parce que dans l'accompagnement des jeunes, on va les voir toutes les 3 semaines au sein du lycée pour s'assurer que tout se passe bien. Et en général, on met un binôme de bénévoles pour voir les jeunes dans un lycée donné tout au long de l'année. Donc, on cherche ces bénévoles-là, des gens qui ont envie de s'approcher de la jeunesse, de faire un peu le lien entre les générations, parce qu'en général, c'est des gens d'une génération intermédiaire. Donc, de recueillir l'impression du jeune et puis d'accompagner l'écriture du livre.
Le message est passé. Merci beaucoup, Anne-Dauphine Julian. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre association et ses différents projets.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Notre application est disponible sur l'App Store et Google Play.
Ainsi se termine l'édition de L'économie autrement. Je tiens à remercier encore tous nos invités et les contributeurs de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le 30 mai prochain pour une nouvelle édition de L'économie autrement. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur l'application Radio KPMG, sur les principales plateformes numériques et sur kpmg.fr. Genavo.
L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.